8. Du haut de son perchoir, Jack les vit approcher bien avant qu'ils atteignent l'immense parking. Il examina sa carabine, chargée, une balle dans la chambre. Il avait posé une pierre plate au bord du précipice. Allongé de tout son long, il appuya le canon dessus. L'œil collé à la lunette, il pointa la mire sur le pare-brise, du côté passager. Un reflet l'aveugla. Il grimaça, recula la tête, se frotta l'œil jusqu'à ce que les taches flottantes s'estompent. Il regarda de nouveau à travers la lunette.
« Allez !» les encouragea-t-il. « Arrêtez-vous au milieu du parking, ce serait parfait. Arrêtez-vous là et descendez !»
Au lieu de cela, le SUV traversa le parking en diagonale et s'arrêta devant l'entrée condamnée de la grotte. Toutes les portières s'ouvrirent et 5 personnes descendirent. 4 hommes et une femme. 5 petits fouille-merdes, alignés, superbes. Malheureusement, les conditions n'étaient pas bonnes. Le soleil maintenait l'entrée de la grotte dans l'ombre. Jack aurait pu tenter sa chance quand même. La lunette Leupold était une merveille. Mais le SUV masquait 3 personnes sur 5 maintenant, dont Monsieur Padavi. La joue de Jack reposait contre la crosse de la carabine. Son pouls était régulier et lent dans sa poitrine et sa gorge. Il ne sentait plus les pulsations brûlantes dans son cou. Il ne pensait plus qu'à une chose, à ce groupe de fouilles merdes rassemblés sous le panneau « Bienvenue à la grotte de Marysville ».«
Avancez un peu », chuchota-t-il. « Faites le tour. Vous savez bien que vous en avez envie. »
Il attendit. 9. L'entrée voûtée de la grotte était obstruée par 2 douzaines de planches de bois, fixées par des boulons rouillés sur un bouchon de ciment derrière. Avec ce double barrage contre les intrus, pas besoin de panneaux entrée interdite, mais il y en avait quand même 2, ainsi que quelques tags à moitié effacés, œuvre sans doute, supposa Ralph, de ces mêmes gamins qui venaient ici avec leur quad.
L'un de vous a l'impression que quelqu'un cherchait à forcer l'entrée ?
Demanda Yunel.
Non, répondit Alec. Je ne comprends pas pourquoi ils se sont donné la peine d'ajouter ces planches. Il faudrait une bonne quantité de dynamite pour faire un trou dans ce bloc de ciment.
Ce qui achèverait sans doute le travail du tremblement de terre, ajouta Howie.
Holly se retourna et tendit le doigt par-dessus le capot du SUV.
Vous voyez cette route là-bas, au-delà du magasin de souvenirs? Elle mène à l'entrée à Aïga. Les touristes n'avaient pas le droit d'emprunter ce passage, mais on y trouve un grand nombre de pictogrammes intéressants.
Et comment vous savez tout ça?
Le plan qu'il distribuait aux visiteurs est toujours en ligne.
On appelle ça faire des recherches, amigo, railla Ralph. Vous devriez essayer.
Ils remontèrent à bord du SUV. Holly derrière le chauffeur, Ralph à l'avant. Howie redémarra lentement.
Cette route m'a l'air pourrie, commenta-t-il.
Ça devrait passer, l'assura Holly. Il y a des bungalows pour touristes sur l'autre versant. D'après les articles parus dans la presse, la seconde équipe de secours les a utilisés comme QG. Et un tas de journalistes et de proches inquiets ont afflué, je suppose, dès que la nouvelle s'est répandue.
Sans parler d'une autre espèce très répandue, les badauds, dit Yunel. Ils ont sûrement...
Arrêtez-vous, Howie, dit Alec.
Ils avaient parcouru un peu plus de la moitié du parking. Le nez écrasé du SUV pointait vers la route menant au bungalow. Et a priori, vers la porte de derrière de la grotte. L'avocat freina.
Qu'y a-t-il ?
Peut-être qu'on se complique la tâche inutilement. La créature n'est pas forcément dans la grotte. Là-bas, à Canning Township, elle se cachait dans une grange.
Et alors ?
Alors, on devrait aller jeter un coup d'œil à la boutique de souvenirs, pour voir s'il n'y a pas de traces d'effraction.
Je m'en charge, déclara Yunel.
Howie ouvrit sa portière.
Pourquoi ne pas y aller tous ensemble ?
10. Les fouilles-merdes quittèrent l'entrée condamnée et regagnèrent leur SUV. Le type râblé et dégarni le contourna par devant pour s'installer au volant, offrant une ligne de tir dégagée à Jack. Il cala la mire sur le visage du type, inspira à fond, retint son souffle et pressa la détente. Elle résista. Pendant un moment d'effroi, il crut que la Winchester avait un problème. Avant de s'apercevoir qu'il n'avait pas ôté la sécurité. Quel imbécile! Il tenta d'y remédier sans décoller son œil de la lunette. Son pouce, gras de transpiration, glissa sur le levier
et le temps qu'il parvienne à libérer le mécanisme, le type était assis au volant et il claquait sa portière. Les autres étaient tous remontés à bord également.
« Merde !» murmura Jack. « Merde, merde, merde !»
Envahi par une panique grandissante, il regarda le SUV traverser le parking en direction de la route de service qui le ferait sortir de sa ligne de mire. Arrivé au sommet de la première colline, il découvrirait les bungalows, le hangar, puis son pick-up garé à côté. Ralph saurait-il à qui il appartenait? Oui, évidemment. Sans doute grâce aux décalcomanies de poissons sur les côtés ou à l'autocollant sur le pare-choc arrière, en voyage de noces avec votre mère.
Tu ne dois pas les laisser emprunter cette route.
Une fois de plus, Jack ne savait pas s'il entendait la voix du visiteur ou la sienne, et il s'en fichait. C'était la voix de la raison. Il devait arrêter le SUV. Et deux ou trois cartouches à forte puissance dans le moteur feraient l'affaire. Ensuite, il pourrait se mettre à canarder à travers le pare-brise. Sans doute qu'il ne les atteindrait pas tous, à cause des reflets du soleil, mais les survivants se répandraient sur le parking désert, blessés peut-être, hébétés à coup sûr. Son doigt se referma sur la détente de nouveau. Mais avant qu'il puisse ouvrir le feu, le SUV s'arrêta à proximité de la boutique de souvenirs abandonnés et de son enseigne déglinguée. Les portières s'ouvrirent.
« Merci, Seigneur !» murmura Jack.
L'œil collé à la lunette, il attendit que M. Padavy apparaisse. Ils devaient tous mourir, mais honneur au chef des fouilles merde. 11. Le crotal émergea de la crevasse dans laquelle il avait trouvé refuge. Il rampa vers les pieds écartés de Jack, s'arrêta, darda sa langue pour goûter l'air qui se réchauffait, puis se remit à onduler sur le sol. Il n'avait pas l'intention d'attaquer. Il était mu par la simple curiosité. Mais quand Jack tira la première cartouche, il dressa sa queue et la fit vibrer. Outre sa brosse à dents, Jack avait oublié d'acheter des bouchons d'oreilles ou du coton et, assourdi par la détonation, il ne l'entendit pas. 12. Howie fut le premier à descendre du SUV. Les mains sur les hanches, il contempla l'enseigne tombée à terre qui annonçait « souvenir et authentique artisanat indien ». Alec et Yunel descendirent de la banquette arrière, côté conducteur. Ralph quitta sa place à l'avant pour ouvrir la portière à Holly, qui se débattait avec la poignée. À cet instant, un objet posé sur la chaussée lézardée attira son regard.
« Merde alors !» dit-il. « Regardez ça !»«
C'est quoi ?»
demanda Holly, au moment où Ralph se penchait.
« On dirait une pointe de
Un coup de feu retentit. Le claquement de fouet presque liquide d'un fusil de forte puissance. Ralph sentit passer le projectile, ce qui voulait dire qu'il avait loupé le haut de son crâne de 3 ou 4 centimètres seulement. Le rétroviseur du SUV, côté passager, fut pulvérisé et arraché. Il tomba sur l'asphalte et s'y répandit en une succession de flashs éclatants.
« On nous tire dessus »
cria-t-il en agrippant Holly par les épaules pour l'obliger à s'agenouiller.
« On nous tire dessus !»
Howie regarda autour de lui, à la fois surpris et perplexe.
« Hein ? Qu'est-ce que vous... »
Le deuxième coup de feu retentit, et le sommet du crâne de l'avocat disparut. L'espace d'un instant, il demeura immobile, le sang ruisselait sur son visage. Puis il s'écroula. Alex se précipita sur lui, et le troisième coup de feu éclata, projetant le détective contre le capot du SUV. Le sang jaillit à travers sa chemise, au-dessus de la ceinture. Yunel fonça vers lui. Il y eut un quatrième tir. Ralph vit le projectile arracher une partie du cou d'Alec avant que celui-ci s'effondre derrière le véhicule.
« Couchez-vous !»
cria Ralph à Yunel.
« Couchez-vous ! Il est là-haut, sur ce tertre !»
Le lieutenant se laissa tomber à genoux et rampa sur le sol. Trois autres tirs s'enchaînèrent. Un des pneus du SUV se mit à siffler. Le pare-brise, étoilé et blanchâtre, s'affaissa autour du point d'impact, au-dessus du volant. Le troisième projectile transperça l'aile arrière, côté conducteur, et ressortit en laissant un trou de la grosseur d'une balle de tennis du côté passager, tout près de l'endroit où Ralph et Yunel, accroupis, encadraient Holly. Après une pause, la fusillade reprit. 4 coups de feu cette fois-ci. Le pare-brise arrière explosa, dans une gerbe d'éclats de verre sécurite. Un autre trou irrégulier apparut sur la plage arrière.
« On ne peut pas rester ici !»
déclara Holly, qui semblait parfaitement calme.
« Même s'il ne nous atteint pas, il risque de tirer dans le réservoir. »«
Elle a raison, » dit Yunel. « Et pour Howie et Alec, il reste une chance à votre avis ?»
Non, répondit Ralph. Il...
Nouveau claquement de fouet liquide, qui les fit sursauter. Un autre pneu se mit à siffler.
Ils sont morts, dit Ralph. Il faut foncer jusqu'à cette boutique de souvenirs. Passez devant tous les deux, je vous couvre.
Non, moi je vous couvre, dit Yunel. Vous deux, vous courez.
Un grand cri leur parvint du haut du tertre. De douleur ou de rage, Ralph n'aurait su le dire.
Yunel se leva, jambes écartées, tenant son pistolet à deux mains, et ouvrit le feu, par intermittence, en direction du tireur embusqué.
« Foncez !»
cria-t-il.
« Maintenant, allez-y !»
Ralph se redressa. Holly l'imita, tout près de lui. Comme le jour de l'assassinat de Terry Maitland, il avait l'impression d'être conscient de tout. Il tenait Holly par la taille. Un oiseau tournoyait dans le ciel, elle déployait, les pneus sifflaient, le SUV penchait du côté conducteur. Au sommet du tertre, il voyait danser et tressauter un éclat lumineux provenant sans doute de la lunette de visée de ce fils de pute. Il ne savait pas pourquoi elle s'agitait comme ça, et il s'en foutait. Un deuxième cri retentit, puis un troisième, un hurlement strident. Holly saisit Yunel par le bras et l'entraîna d'un geste brusque. Il la regarda d'un air ahuri, comme un homme que l'on arrache brutalement à un rêve, et Ralph devina qu'il avait été prêt à mourir. Il s'attendait à mourir. Tous trois sprintèrent en direction de la boutique de souvenirs. Et même si elle se trouvait à une soixantaine de mètres seulement du SUV mortellement blessé, il donnait l'impression de courir au ralenti. Un trio d'amis à la fin d'une stupide comédie romantique. Mais dans ces films, personne ne passait en courant devant les corps mutilés de deux hommes qui vivaient encore 90 secondes plus tôt. Dans ces films, personne ne marchait dans une flaque de sang frais et ne laissait d'empreinte écarlate dans son sillage. Un autre coup de feu éclata, et Yunel brailla.
« Je suis touché! Ce salopard m'a touché !»
Il s'effondra. 13. Jack rechargeait, ses oreilles tintaient, lorsque le crotal décida qu'il en avait assez de cet intrus sur son territoire. Il le mordit en haut du mollet droit. Ses crocs traversèrent sans peine le pantalon de toile. Les glandes à venin étaient pleines. Jack roula sur le côté en levant la carabine dans sa main droite et hurla. Pas de douleur, encore embryonnaire, en voyant le reptile remonter le long de sa jambe, agiter sa langue fourchue, en le fixant avec intensité de ses petits yeux noirs. La sensation de ce corps rampant était horrible. Le crotal frappa de nouveau, à la cuisse, et reprit son ascension sinueuse en continuant à faire vibrer sa queue. La prochaine fois, il risquait de le mordre aux couilles.
« Lâche-moi ! Lâche-moi, bordel de merde !»
Inutile d'essayer de le chasser avec la carabine, il était trop agile. Alors Jack lâcha la Winchester et saisit le reptile à deux mains. Celui-ci visa le poignet droit. Et s'il loupa sa cible la première fois, il parvint à y planter ses crocs à la deuxième tentative, laissant dans la peau des trous gros comme deux points sur un gros titre en première page. Ses glandes à venin étaient presque vides. Jack l'ignorait et s'en fichait. Il tordit le cou du crotal comme un essor en torchon et vit la peau se déchirer. Tout en bas, quelqu'un tirait des coups de feu, avec un pistolet à en juger par les détonations. Mais les balles passaient loin de lui. Jack lança le serpent. Il le regarda rebondir contre les rochers, puis filer de nouveau.
« Débarrasse-toi d'eux, Jack !»« Oui, d'accord, ok. »
Parlait-il à voix haute ou pensait-il ? Impossible à dire. Dans ses oreilles, le tintement était devenu un bourdonnement aigu, comme un fil de fer que l'on fait vibrer en tapant dessus. Il récupéra la carabine, roula sur le ventre, posa de nouveau le canon sur la pierre plate et regarda à travers la lunette. Les trois survivants se précipitaient vers la boutique de souvenirs pour se mettre à l'abri. La femme courait entre les deux hommes. Il essaya de fixer la mire sur Anderson, mais ses mains, dont une avait été mordue plusieurs fois, tremblaient et, finalement, le type à la peau olivâtre apparut dans son viseur. Jack dut s'y reprendre à deux fois, mais il fit mouche. Le type leva un bras au-dessus de la tête à la manière d'un joueur de baseball qui s'apprête à lancer un boulet de canon, puis il bascula sur le côté. Ses compagnons s'arrêtèrent pour l'aider. C'était l'occasion rêvée, la dernière sans doute. S'il ne les abattait pas maintenant, il se cacherait derrière la boutique. La douleur montait de son mollet, là où avait eu lieu la première morsure, et il le sentait enflé. Mais ce n'était pas le pire. Le plus affreux, c'était la chaleur qui se répandait maintenant comme une fièvre subite, ou un coup de soleil attrapé en enfer. Il tira de nouveau, et crut tout d'abord avoir atteint la femme, mais elle n'avait fait que tressaillir. Elle attrapa le type basané par le bras, celui qui n'était pas blessé, et Anderson le prit par la taille pour le soulever. Jack pressa la détente encore une fois,
n'obtenant qu'un claquement sec. Clic. Il farfouilla dans sa poche pour prendre des cartouches. Il en introduisit deux dans la carabine et laissa tomber les autres. Ses mains s'engourdissaient, la jambe mordue également. Il avait l'impression que sa langue enflait dans sa bouche. Il hurla de nouveau, de frustration. Le temps qu'il colle son œil à la lunette, ils avaient disparu. Il put juste entrevoir leurs ombres, avant qu'elles disparaissent elles aussi.